Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment?
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver en ce vendredi 10 juin 2022. Nous allons vous présenter notre bulletin d'information qui sera suivi d'un commentaire politique au sujet des tergiversations américaines dans la négociation sur l'accord nucléaire et leurs impacts négatifs au niveau des liens avec l'Europe. Restez avec nous. L'Iranien Ebrahim Raisi a déclaré que la République islamique d'Iran ne reculerait pas d'un iota sur ses positions à la suite de la récente résolution rédigée par l'Occident. Le Hezbollah libanais déclare une guerre pour la libération des territoires maritimes occupés. Le président vénézuélien Nicolas Maduro est arrivé en Iran et le président français Emmanuel Macron a appelé les Français à lui donner une majorité forte et claire en renvoyant dos à dos la gauche radicale et l'extrême droite. C'était les principaux titres de l'actualité, en voici les détails. Le président iranien Ebrahim Raisi a déclaré que la République islamique d'Iran ne reculerait pas d'un iota sur ses positions à la suite de la récente résolution rédigée par l'Occident et adoptée par le Conseil des gouverneurs de l'agence contre le programme nucléaire de Téhéran. Combien de fois voulez-vous tester la nation iranienne et ne pas écouter les paroles des responsables du pays? Pensez-vous que nous reculerons à la suite de votre publication de résolution, a-t-il déclaré. Raisi a poursuivi que l'ennemi ne voulait pas que l'Iran ait accès à l'industrie nucléaire, aux industries militaires et automobiles avancées et bénéficie de connaissances supérieures, mais nos jeunes sont déterminés à rendre l'ennemi désespéré dans la guerre des volontés. La résolution anti-iranienne a été approuvée mercredi soir par le Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, avec 30 voix pour, 2 contre et 3 abstentions. Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique a affirmé que l'Iran avait informé cette agence du retrait sur ses sites nucléaires des 27 caméras de l'agence. L'Iran a informé l'agence dans la nuit qu'il prévoyait de retirer 27 caméras et autres équipements de l'AIEA à partir de jeudi, soit essentiellement tout l'équipement de surveillance supplémentaire installé dans le cadre de l'accord de 2015 allant au-delà des obligations fondamentales de l'Iran envers l'agence, a déclaré M. Grossi lors d'une conférence de presse. Mais selon Grossi, une quarantaine de caméras installées dans le cadre des questions de garantie resteront en place. Cette décision intervient après que l'Iran eut désactivé 2 des caméras de surveillance de l'agence, affirmant que leur activité allait au-delà de ses engagements au titre de l'accord de garantie. L'Iran avait déjà pris des mesures de rétorsion, notamment l'installation de centrifugeuses avancées et la désactivation de certaines caméras de surveillance de l'agence installées, pour être précis, comme un geste de bonne volonté de Téhéran et en dehors des engagements liés aux accords de garantie. On vous lisait aussi en titre, le secrétaire général du Hezbollah libanais a prononcé un discours le jeudi 9 juin. Le secrétaire général du Hezbollah libanais, Saïd Hassan Nasrallah, a affirmé que son discours de ce jeudi soir n'aurait qu'un seul sujet, les récentes évolutions au sujet du pétrole et du gaz, ainsi que la démarcation des frontières maritimes, un événement important qui se profile à l'horizon pour tout le Liban et tous les Libanais. Nasrallah a affirmé que l'acte du régime sioniste consistant à installer la plateforme gazière Karish en violant l'espace maritime libanais a pour but non pas d'effectuer des explorations, mais de mener des travaux d'extraction, de production et de tout ce qui reste des étapes d'exportation et de vente du gaz naturel. Son navire de la compagnie Energen s'est déployé près du champ Karish, soit dans le champ 29 controversé entre le Liban et le régime sioniste. Ce qui s'est produit ces derniers jours constitue une agression, une provocation contre le Liban pour le mettre dans une situation difficile, a indiqué Nasrallah, qui a poursuivi son discours comme suit. Nous sommes tous devant une question qui doit prendre l'importance d'une grande affaire nationale. Les frontières maritimes, les richesses offshore doivent être considérées comme une affaire absolument nationale pour tout un chacun des Libanais ayant un sentiment de patriotisme. Ces ressources offshore, nous l'appelons un trésor à nos frontières, dont la valeur réside dans le fait que c'est le seul espoir pour résoudre les problèmes et sauver le Liban. Ce trésor appartient à tous les Libanais et nous devons a priori préserver ce trésor et puis extraire et mettre à profit ces richesses. À la lumière de ce qui a été présenté, le constat est le suivant. Les USA et Israël sont en train de dire au Liban qu'il lui est interdit d'extraire son gaz et son pétrole, pas seulement dans les zones contestées, mais aussi dans les blocs souverains. Autrement dit, nous cherchons à vous affamer. Or, nous disposons de forces et de capacités pour ne pas les laisser nous affamer. Certes, ce ne sera pas une chose facile, cela pourra nous entraîner dans une guerre, mais l'enjeu est de taille. Il concerne l'avenir du pays. Fin de citation. Le président vénézuélien Nicolas Maduro est arrivé en Iran à la tête d'une délégation politico-économique de haut rang. Une rencontre avec son homologue iranien et une réunion de hauts fonctionnaires des deux pays est évidemment à l'agenda de cette visite qui doit durer 2 jours. L'Iran et le Venezuela ont tous les deux été visés par des sanctions américaines, notamment dans le secteur de l'énergie. Ils ont coopéré étroitement pour contrer les effets de cette pression économique. Lors d'un appel téléphonique avec son homologue vénézuélien, en décembre, Ebrahim Raisi a déclaré que le Venezuela était visé par les États-Unis en raison de sa quête d'indépendance et de liberté. Ebrahim Raisi a qualifié les relations Téhéran-Caracas de stratégiques, soulignant que la nécessité de développer les liens mutuels, notamment dans les domaines du commerce et de l'économie, se font fortement sentir. Place maintenant aux tensions Russie-Occident. La Russie souligne que l'Occident risque un affrontement militaire direct à cause des cyberattaques. La Russie a averti l'Occident que les cyberattaques contre les infrastructures risquaient de conduire à une confrontation militaire directe et que les tentatives de défier Moscou dans la cybersphère se heurteraient à des contre-mesures ciblées, a-t-on appris de l'agence Reuters. L'avertissement intervient après que le site web du ministère russe du logement a semblé avoir été piraté au cours du week-end. Dans un communiqué, le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que les infrastructures vitales et les institutions étatiques de la Russie étaient touchées par des cyberattaques et a désigné des personnalités aux États-Unis et en Ukraine comme en étant responsables. Rassurez-vous, la Russie ne laissera pas d'action agressive sans réponse, a-t-il déclaré. Toutes nos démarches seront mesurées, ciblées conformément à notre législation et au droit international, ajoute le communiqué. On vous lisait aussi en titre, 2 jours avant le premier tour des élections législatives en France, le président français Emmanuel Macron a appelé jeudi les Français à lui donner une majorité forte et claire en renvoyant dos à dos la gauche radicale et l'extrême droite. Le discours de M. Macron a sonné comme un appel à la mobilisation, à un moment où une alliance de partis de gauche sous la houlette de Jean-Luc Mélenchon pourrait menacer la majorité absolue du parti de M. Macron et de ses alliés centristes à l'Assemblée nationale. Et pour fermer le journal, sachez que la Chine a condamné l'accord de Washington avec Taïwan pour la vente d'équipements navals d'une valeur de 120 millions de dollars, exhortant Washington à abandonner ce plan. La Chine continuera à prendre des mesures résolues et fortes pour défendre sa propre souveraineté et ses intérêts de sécurité, a déclaré le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Le responsable chinois a également averti qu'une telle décision aurait de graves conséquences sur les relations sino-américaines. C'était le journal. Merci à vous de l'avoir suivi et au revoir. Les impacts négatifs des tergiversations américaines sur la rentrée de l'accord nucléaire avec l'Iran. Tel est le thème de notre commentaire politique. Le site web Responsible Statecraft est revenu dans un rapport sur le projet de résolution que les pays occidentaux ont soumis au Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, contre l'Iran, la qualifiant d'une illusion d'unité. Évoquant le contexte politique qui a brossé un tableau plus complexe, le site web a rapporté que la réduction des engagements de l'Iran dans le cadre du PGAC ou l'accord nucléaire de 2015 avec l'Iran avait pour origine le retrait américain des États-Unis de cet accord par l'ex-président Donald Trump, sans manquer de préciser que l'Iran a continué à remplir ses engagements pendant plus d'un an, mais étant donné que Joe Biden n'a pas tenu jusqu'à présent sa promesse de campagne de revenir à l'accord, l'Iran a continué d'étendre son programme nucléaire au-delà des limites de l'accord. Selon le site web, bien que la résolution n'appelle pas pour l'instant le renvoi de l'Iran au Conseil de sécurité des Nations Unies, mais on pourrait y trouver le vrai motif des Américains. La source a décrit l'objectif américain en coulisses consistant à rejeter carrément la responsabilité de l'impasse des pourparlers du PGAC sur l'Iran afin de détourner l'opinion publique de l'échec de Biden à ne pas supprimer un obstacle majeur à la relance du PGAC, à savoir le déblacklistage du Corps des gardiens de la révolution islamique, CGRI. Le site web a poursuivi que les Américains, en sachant que cette décision pourrait certainement compliquer la future coopération de l'Agence internationale de l'énergie atomique avec l'Iran, chercheraient à leur tour à faire pression sur Téhéran pour qu'ils prennent des mesures de représailles, l'utilisant comme prétexte pour tenir l'Iran pour responsable de la défaite ultime de l'accord et faciliter la présentation de l'affaire contre l'Iran devant le tribunal de l'opinion publique internationale. Concernant la non-convergence de l'objectif recherché par les États-Unis avec les trois pays européens dans l'adoption du projet de résolution contre l'Iran, le site web écrit que Washington cherche à gagner le jeu du blâme plutôt que les trois pays européens considèrent le projet de résolution de l'AIEA contre l'Iran comme un point de pression utile pour parvenir à un accord et non d'attribuer la responsabilité de l'éventuel échec des pourparlers à l'Iran. De plus, l'UE est de plus en plus irritée par l'échec de l'administration Biden à parvenir à un accord. D'anciens hauts responsables européens, tels que l'ancien premier ministre suédois Carl Bildt et l'ancien chef de la diplomatie européenne Javier Solana, ont critiqué la passivité de Biden et mis en garde contre les conséquences déstabilisatrice si le JCPOA ou PGAC, selon le sigle français, n'était pas rétabli, a ajouté le site web. Faisant allusion à la guerre en Ukraine qui a ajouté une nouvelle dimension aux préoccupations européennes, la source a déclaré, dixit, « Mettre les réserves iraniennes de pétrole et de gaz sur le marché aiderait l'UE à se sauver de la dépendance excessive vis-à-vis des approvisionnements russes. Pourtant, ce commerce est toujours soumis à des sanctions américaines extraordinaires réintroduites par Donald Trump et maintenues par Joe Biden.
Bonjour à toutes et à tous et merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors dans ce débat, nous allons parler de la politique de deux poids, deux mesures adoptée par la France vis-à-vis de la crise ukrainienne. Alors choisissant d'effectuer des livraisons d'armes à Kiev, la France donc a été reprochée par le président ukrainien d'avoir des concessions, de donner des concessions à la Russie. Donc on voit très bien cette politique de deux poids, deux mesures chez les Français, ou particulièrement chez le président français. Et justement maintenant, il n'hésite pas à dire qu'il ne fallait pas humilier la Russie. Donc d'une part, la France veut contenter la communauté internationale en s'y opposant à la crise ukrainienne. Et de l'autre côté, donc veut avoir de bonnes relations avec la Russie. Nous allons développer ces questions à l'aide des experts des questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Restez avec nous, je vous prie.
L'Ukraine s'en prend à la France après l'appel de Macron à ne pas humilier la Russie. Le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kuleba, a fustigé l'appel du président français Emmanuel Macron à ne pas humilier la Russie, jugeant que cette position ne pouvait qu'humilier la France. Les appels à éviter l'humiliation de la Russie ne peuvent qu'humilier la France ou tout autre pays, car c'est la Russie qui s'humilie. Nous ferions tous mieux de nous concentrer sur la façon de remettre la Russie à sa place. Cela apportera la paix et sauvera des vies, a écrit le 4 juin sur les réseaux sociaux le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba. Cette publication survient au lendemain d'une interview accordée par le président français Emmanuel Macron à la presse quotidienne régionale, dans laquelle le chef d'État français avait appelé à ne pas humilier la Russie, et ce, pour que le jour où les combats cessent, nous puissions construire une rampe de sortie par des moyens diplomatiques. Je suis convaincu que c'est le rôle de la France d'être une puissance médiatrice, a en effet déclaré Emmanuel Macron. À la mi-juin déjà, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait lui-même reproché à son homologue français de vouloir faire des concessions diplomatiques à la Russie, accusation face à laquelle l'Élysée s'était rapidement défendue. Un dialogue franco-russe en dents de scie, bien que le président français soit l'un des rares dirigeants occidentaux à entretenir un dialogue avec Vladimir Poutine, la diplomatie russe a à plusieurs reprises reproché à Paris ses livraisons d'équipements militaires à destination de l'Ukraine. En choisissant d'effectuer des livraisons d'armes, y compris offensives à Kiev, la France alimente le nationalisme ukrainien et le néonazisme, avait par exemple estimé le ministre russe des Affaires étrangères le 29 mai, lors d'un entretien accordé à LCI, au cours duquel il a accusé l'armée ukrainienne et le bataillon Azov d'utiliser les civils comme boucliers humains et de placer des armes lourdes dans les zones résidentielles, près des écoles, des hôpitaux et près des jardins d'enfants. Le chef de la diplomatie russe avait également déploré à cette occasion que la France réclame une guerre jusqu'au bout pour vaincre la Russie. Il est en outre à noter que Paris, comme nombre d'autres chancelleries occidentales, a multiplié ces derniers mois les sanctions contre la Russie en réaction à son opération militaire en Ukraine.
Vous regardez l'émission Le Débat, nous parlons naturellement de la crise ukrainienne. À présent, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau deux chers invités, en commençant par M. Bernard Cornu, expert des questions internationales, qui est avec nous depuis Vaucluse. M. Cornu, bonjour.
Bonjour à vous.
Oui, un plaisir de vous recevoir. Un grand bonjour à M. Arnaud Develet, juriste international, expert des questions internationales, qui est avec nous depuis Damas. Monsieur Arnaud Develet, bonjour.
Oui, bonjour à vous et bonjour à votre invité.
Très bien. Alors, ma première question va s'adresser à Monsieur Bernard Cornu depuis Vaucluse. Alors, Monsieur Cornu, comment vous comprenez cette politique de deux poids, deux mesures chez les Français, ou plutôt chez le président français à l'égard de la crise ukrainienne? D'une part, on voit la France faire des concessions à la Russie, et de l'autre part, il dit qu'il ne fallait pas humilier la Russie. Que pensez-vous?
Oui, je ne dirais pas ces deux poids et deux mesures, mais plutôt une politique difficile d'équilibre, dont le but principal, et le président français l'a répété, est de pousser aux négociations, c'est-à-dire à l'arrêt de la guerre le plus tôt possible, parce que la guerre n'engendre que des coûts, des destructions et des grandes difficultés sur les problèmes d'alimentation et sur les problèmes d'énergie, alors que l'Europe et le reste du monde doivent se concentrer surtout sur les problèmes de développement durable et pour faire face au changement climatique.
Bernard Cornu, comment donc pouvons-nous espérer la paix quand la France a essayé d'effectuer des livraisons d'armes à Kiev?
Comme je viens de le dire, c'est une politique d'équilibre assez délicate. Comme il y a eu des pressions très fortes à la fois de l'opinion, de certains partis, alors qu'on est en période d'élection, la France a fait un service peut-être minimum, et en plus elle a essayé de vendre, de confier des armes performantes pour aussi faire de la publicité sur son nouveau matériel qui tire des obus très précis. Donc voilà, mais je pense que la France en fait moins que les États-Unis, moins que l'Angleterre, et elle essaye de ne pas trop communiquer là-dessus aussi pour ne pas mettre des livraisons, puisque c'est évident qu'elles arrivent sur les territoires, notamment par la Pologne ou par la Roumanie.
Bernard Cornu, malheureusement, nous ne vous entendons pas. Si vous permettez, je vais m'adresser à Maître Develet depuis Damas. Alors, est-ce que vous pensez que c'est une politique équilibrée, comme a dit M. Cornu, ou plutôt une politique de deux poids, deux mesures chez la France à l'égard de la crise ukrainienne?
Mais écoutez, on a souvent reproché à Emmanuel Macron son « en même temps ». Et force est d'avouer que dans le contexte de la crise ukrainienne, nous sommes en plein dans le macronisme, l'incohérence quant au positionnement à adopter. Nous avons un président qui, vous l'avez souligné, laisse entendre qu'il ne fallait pas, voire qu'il ne faut pas humilier la Russie. Mais je rappellerai à nos téléspectateurs que la France ainsi que l'Allemagne, depuis 2015, sont théoriquement les deux pays garantissant l'application des accords de Minsk, et que ces accords n'ont jamais été mis en œuvre. Ce qui nous amène à la situation qui a vu la Fédération de Russie prendre les choses en main, pas la seule raison, mais l'une des raisons principales de l'intervention de la Russie le 24 février dernier dans le cadre de l'opération militaire spéciale. Et j'ajouterai à cela qu'il est difficile de croire la bonne foi du président français lorsqu'il exprime le désir de vouloir jouer le rôle d'une puissance médiatrice, dans le sens où la France envoie à l'heure qu'il est des armements sophistiqués, des canons à longue portée César, des missiles anti-chars Milan, que l'on sait qu'il y avait des conseillers français dans les trous d'Azovstal, dans les souterrains d'Azovstal, même si cela pour l'instant n'a pas été bien sûr confirmé, mais on peut penser que les tentatives répétées d'exfiltration et les coups de téléphone quotidiens de Macron à son homologue russe laisse entendre qu'il, au travers de couloirs humanitaires, était question d'exfiltrer des membres des services secrets français. Et puis on apprend bien sûr encore hier qu'il y a des combattants français, des combattants illégaux, des mercenaires, qui sont visiblement partie prenante des combats. Et donc dans ce contexte-là, ce qui est très très dangereux, c'est que cela fait de la France un pays co-belligérant et que théoriquement la Russie aurait parfaitement le droit de prendre acte de cette situation et demander des comptes à Emmanuel Macron. D'autant plus que le déversoir de toutes ces armes françaises, on le sait maintenant, ainsi que toutes les autres armes qui sont fournies par le collectif occidental de manière générale, semble être l'objet de détournements massifs. On retrouve ces armements maintenant sur le Darknet et on peut penser que cela va contribuer à créer des foyers d'instabilité un peu partout dans le monde et probablement principalement en Afrique.
Oui. Bernard Cornu, est-ce que vous nous entendez?
J'ai entendu mon collègue depuis Damas.
Oui, votre réaction, je vous prie.
Je crois qu'il a tout à fait raison de rappeler, de signaler cette dispersion des armements et qu'ils risquent de se retrouver sur du marché noir, qu'on retrouve déjà sur le marché noir. Et c'est une notion qu'on a déjà connue en Syrie, en Libye aussi. Et il faut juste confirmer quand même que l'objectif affiché de la France reste de conduire à la paix, à l'arrêt de la guerre, et qu'elle doit faire, dans une situation très complexe, elle livre des armes, comme ça a été signalé, mais l'objectif reste la paix, alors qu'on a vu il y a quelques semaines le président américain dire que l'objectif était d'affaiblir définitivement la Russie, même si quelques jours, cet objectif a été un peu nuancé. Et la France continue à maintenir cette ligne, comme les Nations Unies, que l'objectif premier est la paix, car toute guerre amène à des souffrances, non seulement dans les pays qui font la guerre, mais aussi, on l'a vu, on l'a analysé, dans le reste du monde, par le problème des exportations alimentaires, par le problème des sanctions, par toutes sortes de problèmes. Donc le premier objectif reste de mettre fin à cette guerre. Donc la France, avec la Turquie, avec l'Allemagne, essaye de maintenir un dialogue positif avec les deux parties, même si c'est effectivement très difficile.
Bernard Cornu, le mal engendre le mal, finalement. Alors, comment la France peut jouer une puissance médiatrice alors qu'elle livre des armes à Kiev et comment on peut espérer la paix dans ce cas-là?
La Turquie a été dans cette position aussi. Elle a livré des drones à l'Ukraine, qui ont été apparemment très efficaces. Elle a quand même été acceptée comme médiatrice lors d'une première réunion, de deuxième réunion, à Antalya, avec présence du ministre Lavrov. Donc, les pressions aussi de l'Ukraine sont très fortes, sont très insistantes. Les pressions internes françaises et européennes de plusieurs pays aussi sont très fortes pour que les pays opposés à cette guerre livrent des armes à l'Ukraine. La France, je pense, fait un service minimum, même si c'est peut-être même devrait s'en abstenir. Mais ce que je souhaite et ce que j'observe, c'est qu'elle continue à œuvrer avec l'Allemagne et peut-être avec la Turquie et peut-être discrètement, aussi avec les Nations Unies pour l'aspect de l'exportation des céréales depuis Odessa. Elle œuvre encore en priorité pour ceci et non pas pour aider l'Ukraine à vaincre la Russie, ce qui, à mon avis, serait assez vain, assez prétentieux.
Absolument. Maître Develet, est-ce qu'il est possible de contenter la communauté internationale d'une part et de l'autre faire des concessions à la Russie? Comment est-ce possible? Là, vraiment, on est face à une politique de double face. Est-ce que la France s'inquiète qu'après la guerre, ses relations avec la Russie soient donc... il y aura des problèmes avec la Russie?
Alors, je pense que la relation entre la Russie et la France, historiquement, a toujours été très forte. Et on peut penser que, malgré l'incurie de nos dirigeants actuels, cette relation endurera. Le fait demeure qu'aujourd'hui, la parole de la France est complètement démonétisée, qu'elle est dans un suivisme atlantiste qui lui cause un préjudice énorme, et qui peut effectivement, à moyen court terme, se retourner contre elle, parce que n'oublions pas que la politique de sanctions tout azimut adoptée par l'Union européenne, dont Emmanuel Macron se fait le chantre, hein. N'oubliez pas que Macron est un européiste convaincu, on peut penser qu'il adopte un discours, soi-disant avec des accents gaulliens, pour rassurer la galerie en interne, mais qu'il est complètement aligné avec la position adoptée par la Commission européenne, incarnée par la présidente von der Leyen, qui est elle-même complètement alignée sur les positions de l'OTAN et partant de là des États-Unis. Et M. Cornu l'a très bien souligné, jusqu'à preuve du contraire, et malgré les injonctions de Henry Kissinger récemment encore au forum de Davos, il semblerait que jusqu'à preuve du contraire, la stratégie entre guillemets à suivre reste celle de continuer à livrer des armes et faire perdurer le conflit avec toutes les conséquences que cela engendre.
Maître Develet, M. Cornu a dit tout à l'heure que les États-Unis, par exemple, préféraient et donc faire endurer la guerre et d'affaiblir la Russie par le biais de cette guerre en Ukraine, alors que la France et certains pays préfèrent d'arrêter la guerre et d'aboutir à la paix.
Oui, sauf que ce que les Européens ne semblent pas avoir compris, c'est que ce sont eux qui sont sacrifiés, en fait. La Russie a démontré d'ores et déjà qu'elle avait préparé le terrain en amont, et ce depuis probablement 2014, lors de l'Euromaïdan, lorsque les sanctions, les 30 sanctions avaient commencé à être mises en œuvre à leur rencontre. Ils ont donc, ils se sont adaptés de telle sorte que, en pratiquant une forme d'autosuffisance, les sanctions récentes mises en œuvre après le 24 février s'avèrent maintenant être complètement obsolètes et que c'est maintenant l'Europe, sachant que la Russie n'a pas encore déployé l'étendue de son droit de la réciprocité à imposer elle-même maintenant des sanctions à l'encontre de l'Europe, c'est l'Europe qui va en payer les prix, tant au niveau énergétique, mais au niveau aussi bien sûr alimentaire. Et c'est pour ça que l'on entend maintenant déjà la petite musique qui laisse entendre que la crise alimentaire de grande ampleur qui s'annonce est d'ores et déjà la faute de la Russie. Vous voyez ? Il faut anticiper et lire un petit peu entre les lignes du narratif occidental. Mais ils sentent très bien que leur stratégie a complètement échoué. Et plutôt que de se remettre en cause et de jouer l'introspection et d'adopter un comportement réaliste, ils préfèrent jouer la surenchère avec, encore une fois, les conséquences que cela peut engendrer.
Absolument. Et Bernard Cornu, vous avez dit tout à l'heure que les États-Unis préféraient que la guerre continue en Ukraine, ainsi la Russie sera affaiblie. Est-ce que c'est un but prémédité donc par les États-Unis qui seront peut-être contents de cette guerre et donc voir l'Europe affaiblie?
En tout cas, il y a quelques semaines, ça a été un but proclamé et comme ça fait un peu des remous dans les médias et même aux États-Unis, depuis quelques jours, ce but est moins affiché. Et moins affichés. Les États-Unis ont dit qu'ils ne souhaitaient pas œuvrer pour un changement de régime, mais il est sûr que discrètement, c'est un but profond des États-Unis, affaiblir la Russie, mais aussi affaiblir l'Europe, même s'ils ne l'ont pas proclamé cela. Et en fait, dans les faits, la fourniture massive d'armes américaines à l'Ukraine entretient la guerre, entretient les destructions, et aussi, c'est vrai, affaiblit la Russie, mais aussi elle affaiblit l'Europe, parce que l'Europe va devoir s'est engagée à faire des investissements pour avoir des centres de liquéfaction et surtout de vérification du gaz naturel liquéfié qui serait importé des États-Unis et à terme peut-être d'autres pays. Et donc, au lieu de concentrer des investissements à tous les qui est nécessaire pour la transition énergétique et environnementale, pour le soutien des énergies renouvelables, pour le soutien à la sobriété, à l'efficacité, à changement d'énergie, l'Europe va investir sans doute dans des terminaux de gaz liquéfié qui s'avéreront, à mon avis, dès qu'il y aura la paix, dès qu'il y aura l'arrêt des sanctions à l'Iran, qui s'avéreront inutiles, inutilisés et donc un gaspillage. Et en plus, il est connu que l'utilisation du gaz naturel liquéfié est beaucoup plus polluante encore que l'utilisation du gaz, parce que la liquéfaction, la vérification, le transport en bateau, en tanker, méthanier aussi engendre plus de pollution et de coûts que l'utilisation du gaz naturel comprimé dans des gazoducs.
Maître de Velay, le débat est devenu intéressant. Est-ce que vous partagez l'avis de M. Cornu?
Alors, excusez-moi, mais la connexion n'était pas très bonne. Je n'ai pas forcément compris tout ce qu'il disait. Si vous pouvez,
Oui, en résumé, ça contente les États-Unis de voir la guerre continuer en fournissant des armes à Kiev. Comme ça, cela entretient la guerre et nourrit la guerre, autrement dit, la destruction.
Oui, ben, je pense que les États-Unis étant confrontés à une crise interne de grande ampleur, a tout intérêt à en fait resservir, c'est une resuccès de la stratégie de la Deuxième Guerre mondiale où en alimentant le conflit sur le continent européen, ça leur permet d'accomplir deux objectifs stratégiques, c'est parachever le découplage de son précaré européen de la Russie, hein, à commencer bien sûr avec les liens qui pouvaient unir au moins économiquement parlant l'Allemagne et la Russie, les matières premières russes d'un côté et l'expertise technique allemande de l'autre. Cette politique semble être en voie de porter ses fruits visiblement, puisque maintenant visiblement le gazoduc Nord Stream 2 a été pour l'instant si je puis dire relégué à l'arrière-plan, mais on verra, comme je disais précédemment, les conséquences que, comment dirais-je, le fait que pour l'Europe d'adopter ce positionnement et de se couper de l'approvisionnement énergétique russe, qui était pourtant un approvisionnement à bon marché, pour se tourner vers le gaz américain qui est vendu au moins trois fois plus cher, avec des économies européennes qui sont en dépréciation totale. Je pense que cela participe aussi probablement de cette pseudo-révolution verte. Hein, donc c'est un modèle, quelque part, on utilise la crise ukrainienne et on appauvrit l'Europe pour mettre en place une forme de système qui sera indexé plus ou moins avec un crédit social à la chinoise, une paupérisation, une mise en esclavage des populations avec probablement à terme la fin de la propriété privée au travers de tout un tas de mesures sociales qui ont pour objet d'opérer une révolution anthropologique en Occident. Est-ce que cela va aboutir? C'est trop tôt pour le dire. Toujours est-il que nous nous dirigeons vers des troubles sociaux de grande ampleur en Europe et ce sera en fait là qu'il faudra observer soit les peuples seront capables de prendre conscience de ce que les dirigeants les ont vendus, et renverser ces régimes illégitimes pour les remplacer par des dirigeants qui sont à même de prendre des décisions dans l'intérêt de leur pays. Et ça veut dire quelque part couper les ponts avec les États-Unis, parce qu'il faut bien comprendre une chose. Maintenant, la Russie est arrivée à un point où elle n'a absolument aucune confiance dans la parole des Occidentaux. Elle a donné des années et des années de patience dans ce contexte-là, et une fois que les Russes prennent une décision et qu'ils intègrent cette donnée fondamentale, ils iront jusqu'au bout. Et donc cette idée de s'asseoir avec la Russie et essayer de négocier une espèce d'accord, même si cela implique des concessions territoriales, ainsi que Kissinger l'a laissé entendre, je pense que c'est bien trop tard pour cela. La seule condition qui pourrait permettre une discussion franche avec la Russie, qui permettrait une sortie de crise par le haut, serait de concéder que les priorités géostratégiques de l'Europe occidentale, en s'alignant dans un suivisme absolu sur la politique états-unienne, doit être, si je puis dire, relégué aux poubelles de l'histoire. L'avenir de l'Europe occidentale est avec la Russie. Tant que cette notion fondamentale n'aura pas été intégrée, je ne pense pas qu'on pourra avoir une évolution notable.
En deux mots, M. De Velay, est-ce que la France est une bonne puissance médiatrice dans cette crise? En deux mots.
Non, absolument pas. La France est une puissance complètement vassalisée par les États-Unis. La politique, en ce qui concerne le dossier ukrainien, puisque c'est la thématique du jour, est formulée à Washington. C'est le département d'État qui gère le dossier. Et le Quai d'Orsay à Paris n'est qu'une succursale du département d'État dans le camp occidental.
Eh bien, Arnaud Develet, juriste international depuis Damas, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Un grand merci à M. Bernard Cornu, expert des questions internationales, qui était avec nous depuis Vaucluse, d'avoir participé à l'émission du débat d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
L'Afrique achète des céréales russes et non les mensonges américains. Le résultat final est que les dernières fake news de l'Occident contrôlées par les États-Unis au sujet de la Russie ont complètement échoué après le refus de l'Afrique de céder à la pression américaine visant à les empêcher d'acheter le blé de ce pays. Le New York Times a rapporté lundi 6 juin que des responsables américains avaient mis en garde une poignée de pays africains à la mi-mai contre l'achat de ce qu'ils prétendaient être du grain que la Russie avait volé à l'Ukraine. Le calendrier de ce rapport, plusieurs semaines après cet événement diplomatique, intervient après la rencontre entre le président de l'Union africaine Macky Sall et le président russe Vladimir Poutine à Sochi, vendredi dernier, au cours de laquelle il a dénoncé les sanctions anti-russes de l'Occident dirigées par les États-Unis, qui, selon lui, contribuent directement à l'insécurité alimentaire sur son continent. Cela a brisé le faux récit selon lequel Moscou aurait bloqué les ports ukrainiens et vendu le grain qu'il aurait volé à ce pays. Le dirigeant russe a également expliqué, lors d'une interview télévisée plus tard le même jour, comment la crise alimentaire mondiale est artificiellement fabriquée par l'Occident. Ce qu'a résumé ce que l'ambassadeur russe à l'ONU a longuement développé à la fin du mois dernier. Le président Poutine a rappelé à tout le monde que ce problème est en fait causé par les conséquences économiques de la réponse de l'Occident, guidée par les États-Unis à la pandémie de COVID-19, du minage par l'Ukraine de ses propres ports et des sanctions anti-russes. L'approbation par le président de l'Union africaine de la dernière cause mentionnée de cette crise démystifie puissamment les mensonges de l'Amérique à ce sujet. Car personne ne peut douter de manière crédible de la sincérité de ses paroles lorsqu'il représente les pays les plus directement touchés par cette crise. Ce n'est pas une coïncidence si aucun pays africain ne s'est joint aux sanctions anti-russes de l'Occident sous contrôle américain, pas même ceux dont les gouvernements ont été contraints par ce bloc à voter contre Moscou aux Nations Unies. L'Occident, sous contrôle américain, a un passé méprisable de colonialisme, de néo-impérialisme et de bellicisme dans toute l'Afrique. Cette civilisation est tristement célèbre pour avoir tué d'innombrables personnes sur le continent au fil des siècles et en avoir réduit un nombre encore plus grand en esclavage. Elle ne jouit d'aucune confiance, mais simplement un allié de complaisance pour beaucoup qui apprécient l'accès relativement ouvert au marché pour leurs exportations. D'autres, en revanche, sont dirigés par des leaders soutenus par l'Occident et véritablement impopulaires qui s'accrochent au pouvoir par la force. Quant aux États stratégiquement autonomes qui ont défié la pression de l'Occident, contrôlés par les États-Unis en refusant de condamner publiquement puis de sanctionner la Russie, Washington n'a jamais été aussi furieux contre eux. À titre d'exemple, le cas du Mali. Le 23 avril, le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré son soutien aux revendications maliennes, invoquant une enquête internationale sur les exactions et les massacres français au Mali. Plus tard en avril, l'organisation Human Rights Watch a appelé à une enquête indépendante et crédible sur les meurtres. Elle suggérait qu'une campagne sanglante avait effectivement eu lieu, ciblant principalement des extrémistes armés entre le 23 et le 31 mars. « Si l'on écarte le blanchiment médiatique et la désinformation officielle, le Mali a en effet été le théâtre de nombreuses effusions de sang ces dernières années, en particulier depuis 2012, lorsqu'une insurrection radicale dans le nord du Mali menaçait de totalement déstabiliser un pays déjà fragile et en état de pauvreté. La guerre française au Mali, à partir de 2013, a été désastreuse du point de vue des Maliens. Elle n'a ni stabilisé le pays, ni fourni un plan crédible sur la façon de pacifier le Nord en rébellion. La guerre, les violations des droits de l'homme par les Français eux-mêmes et d'autres coups d'État militaires ont suivi notamment en août 2020 et mai 2021. Mais l'intervention de la France a été profitable du côté de l'ancienne puissance coloniale. Après que les troupes françaises ont commencé à affluer au Mali et commencé à renforcer leur contrôle sur les pays du Sahel, dont le Mali, deux accords de défense ont été signés en 2013 et 2020. C'est là que se termine la success story de l'Afrique de l'Ouest française. Bien que Paris ait réussi à s'incruster dans cette région, cela n'a donné aucune raison au peuple et au gouvernement malien de soutenir les actions françaises. Alors que la France s'impliquait davantage dans la vie des Maliens, la population de tout le pays, du nord au sud, les détestait et les rejetait. Cette évolution radicale était l'occasion rêvée pour la Russie de se présenter comme une alternative à la France et à l'Occident. L'avènement de la Russie sur cette scène complexe a permis à Bamako de rompre nettement avec sa dépendance vis-à-vis de la France et de ses alliés occidentaux de l'OTAN. Il n'est pas étonnant que le Mali ait voté contre la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies visant à suspendre la Russie du Conseil des droits de l'homme des Nations unies. À la suite de la guerre en Ukraine et des sanctions occidentales à partir de fin février, la Russie a accéléré son déploiement politique et économique, en particulier dans les pays du Sud, dans le but d'atténuer l'impact de l'isolement international activé par l'Occident. En vérité, la quête géopolitique de Moscou en Afrique de l'Ouest a commencé bien avant le conflit ukrainien et le soutien immédiat du Mali à la Russie après la guerre atteste du succès de Moscou dans cette région du monde. L'Amérique a fabriqué artificiellement la crise alimentaire mondiale et répand maintenant de fausses nouvelles selon lesquelles la Russie aurait volé le grain ukrainien qu'elle expédie en Afrique. Washington veut punir ses gouvernements multipolaires en provoquant l'instabilité dans leur pays par la famine imminente qu'il est directement responsable de créer. Il espère que cela conduira soit à des révolutions de couleur et ou à des coups d'État militaires pour remplacer les dirigeants véritablement populaires et indépendants par des marionnettes étrangères, en particulier en Afrique de l'Ouest, qui est aujourd'hui l'un des fronts les plus chauds de la nouvelle guerre froide. En réponse à cette menace de guerre hybride, les pays africains achètent avec empressement autant de produits agricoles russes que possible afin d'éviter que le scénario de changement de régime orchestré par les États-Unis ne soit indirectement favorisé par la crise alimentaire mondiale artificiellement fabriquée. Le résultat final est que les dernières fake news de l'Occident, contrôlées par les États-Unis au sujet de la Russie, ont complètement échoué après le refus de l'Afrique de céder à la pression américaine visant à les empêcher d'acheter le blé de ce pays. C'est pour cette raison que les MSM propagent maintenant le mensonge selon lequel le blé a été volé à l'Ukraine afin de discréditer ces États dans le tribunal de l'opinion occidentale. Mais ils s'en moquent éperdument, puisque la garantie de la sécurité alimentaire est naturellement leur priorité absolue.
Chers auditeurs, vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur onde courte, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure, sur FM dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.